Ce matin, je vais commencer, peut-être ça va avoir l'air d'une note négative, mais restez accrochés, s'il vous plaît, OK? Parce que je veux qu'on termine en prière ce matin. Je crois vraiment que c'est un message approprié, prophétique même, je pourrais dire, parce que c'est tellement important dans les temps dans lesquels nous vivons. Parce que lorsqu'il vient des hommes de Dieu, des femmes de Dieu ici à l'Église, qu'on a la possibilité, Pasteur Réal et moi, de s'asseoir avec eux, de parler. Bien des fois, on parle à d'autres ministres, on parle des fois à Pasteur Norm en Floride, ou des fois je parle à Jacinthe, ma sœur, puis je lui demande à propos de là-bas, à Tulsa. On parle avec Martine et John, qui sont des ministres de Dieu. Et puis, quand on était avec Pasteur Donato, il ne faut pas vous penser qu'on est assis à la journée longue à parler. Moi, j'aimerais bien ça, tout écouter la sagesse qu'il a acquis. Et savez-vous que bien des fois, il dit, « Pasteur Chantal, je vais utiliser ça. » Il prend mes choses aussi. Wow! Gloire à Dieu! Mais non, il est au sous-sol. Il reste chez nous, mais il est au sous-sol. Et puis, quand on part le matin, nous, pour venir à la prière, j'y laisse son petit chose à expresso, il se le fait lui-même, une petite tasse, ça d'autre, puis il y en a juste ça dans le fond, puis il fait, je sais pas quel bonheur qu'il y a à faire ça. Fini, j'ai dit un bon Tim Hortons, là, une bonne vanille française chaude, là, quelque chose qui fait engraisser, quelque chose, là. Tiens, puis là, il s'en fait un deuxième, même affaire, dans le fond. Il dit, goûtez-y, non, merci. Fait qu'il s'arrange tout seul, on revient vers 11h, il travaille ses affaires, là on l'amène dîner, puis là c'est là qu'on peut parler, merci Seigneur, écoutez ce qu'il a à dire. Après ça, on revient dans l'après-midi, il descend au sous-sol, il est sur Skype, puis toutes sortes d'affaires, il parle, c'est tout ça Skype là, quand il parle aux autres, là, il rejoint tout le monde sur la terre. Puis il écrit des livres, puis il fait 56 affaires. Il est très occupé. Et puis après ça, il ne veut pas manger pour souper. Il s'en vient ici, mais après ça, par exemple, c'est le gros lunch. Là, on parle encore, merci Seigneur. Mais lorsqu'on discutait avec lui, je lui disais, qu'est-ce qui se passe dans l'Église, dans le corps de Christ? Il y a quelque chose qui est, je pourrais utiliser le mot « déplaisant », qui est pas le fun, là, qui est comme, on dirait que le monde, ils n'ont pas l'intérêt. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, quand Pasteur Réal et moi, on était, là, 22 ans, au Nouveau-Brunswick, ça fait longtemps, hein? J'ai dit, on faisait 35 000 pour aller à l'église, on y allait dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir, puis jeudi pour la prière. Ça faisait 280 000 par semaine. Puis je disais, mais c'est quoi le feu, là? Tu sais, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec le corps de Christ? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pasteur Donato, puis tu sais, on jasait, puis on échange des choses. Il dit, l'esprit du monde est rentré dans l'Église. Puis il dit, l'esprit du monde présentement n'est pas la crainte de Dieu. J'ai dit, vous avez raison. C'est ça. Parce qu'on sait qu'est-ce qui se passe dans le monde. On va enlever les prières, puis faut enlever les crucifix, puis on est neutre. On n'a plus rien, là. Puis on dirait que le monde a perdu la crainte. Moi, je me souviens, j'étais petite, là. Petite partout, là. Petite. Puis j'avais peut-être 7 ans, 8 ans. Puis je me souviens, j'avais passé à côté d'une maison qui était tout après démolir l'intérieur, tout vidé, ça. Puis il y avait des grosses poubelles dehors. Puis j'avais vu une photo de Jésus avec un gros cœur rouge. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été élevés avec ça dans leur maison. Ils appelaient ça le cœur sacré de Jésus. Puis nous autres, on en avait une chez nous parce que ma mère, elle faisait tout le temps toutes ses prières au nom du cœur sacré de Jésus. Elle n'était pas loin de la vérité, hein? Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça a marché aussi. Et puis... Moi, j'avais passé, puis la photo était toute maganée, puis elle était là. Puis moi, sur le coup, quand j'ai vu ça dans la poubelle, j'ai fait « Ah! » Puis je suis petite, là. Puis j'ai fait, oh mon doux, puis là, j'avais arrivé chez une en courant, puis je lui ai dit, maman, tu sais pas qui ont mis dans la poubelle le cœur sacré de Jésus. On avait une révérence, on avait une crainte. Une crainte qui existait, c'était comme, voyons donc, vous allez dire, ben là, c'est exagéré. Non! Non, il y avait une crainte qui existait. Puis aujourd'hui, dans le monde n'a plus la crainte de Dieu. Ça, c'est officiel. Mais il dit, malheureusement, c'est ce que Donato en parlait, il dit, c'est rentré dans l'Église. J'ai dit, vous avez entièrement raison. Amen. Voyez-vous, restez accrochés, vous allez voir, ça va être bon. Dans Malachi 1, verset 6, la parole de Dieu dit, c'est Dieu qui parle, puis il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dans Malachi 1, 6. Il dit, un homme va tout simplement honorer son père, puis un serviteur, il honore son maître. Puis il dit, moi, où est l'honneur qui me revient? On sait très bien que Dieu, où est la crainte que le monde devrait avoir de moi? On sait très bien que le mot crainte, c'est pas j'ai peur. Tiens, je ne sais pas ce que Dieu peut me faire. Non. Dieu ne fait que de bonnes choses. La parole de Dieu dit que toute bonne chose descend du Père des Lumières qui est dans les cieux. Amen. Mais la crainte qui parle, il dit, c'est de révérer qu'est-ce qu'il dit dans sa parole, puis le prendre au sérieux, puis vraiment de reconnaître que Dieu il est puissant, puis sans Dieu, là, je ne pourrais pas rien faire. Puis Dieu dans ma vie, il est important, puis je devrais craindre. S'il dit telle chose, il le fait. Amen. Et puis si je n'obéis pas, comme il dit, les conséquences sont là. Je devrais, combien de vous aimez que vos enfants, ils vous respectent, puis vous honorent. Amen. Que les enfants, ils arrivent, puis ils disent, ben moi, ma mère, elle ne veut pas que je fasse ça. C'est intéressant quand on entend ça de nos enfants. On voit qu'ils nous respectent et ils respectent ce qu'on dit. Amen. Mais si vous auriez des enfants, hey, les puffs, là, tu tapes sa baboune, hein? Je veux que Annie, elle enseigne au mois de mai. Elle fait signe que non. J'ai dit oui. Elle a des bonnes idées en frais de parents. Elle dit, maman, je suis jeune. Le monde, ils vont dire, oh, tes enfants sont jeunes, puis tu verras bien plus tard. J'ai dit, Annie, fie-toi pas à ça. Moi, j'avais une de mes belles-sœurs que quand j'avais pas d'enfant, elle disait, attends, mais que tu aies un enfant, tu vas voir. Quand j'en ai eu un, elle en avait deux. Elle dit, attends, mais que tu en aies deux. Quand j'en ai deux, elle en avait trois. Attends, mais. Je lui dis, non, j'attendrai plus. J'arrête ça là. Et puis, je veux qu'elle enseigne. Vous l'avez entendu parler tantôt? Son cœur est pour les jeunes. Puis quand ton cœur est pour les jeunes, puis qu'après 12, 13 ans, je ne sais même plus ça fait combien, 13 ans qu'ils sont avec nous, après 13 ans d'être avec nous, puis le cœur est encore là, puis le cœur veut encore, puis il force encore. Moi, ça fait longtemps que je n'aurais tout fait de toi. Mon cœur est avec les adultes. Non, c'est pas vrai. Mon cœur est avec toute l'Église. Mais vraiment, tout le monde veut entendre Annie au mois de mai. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est clé. Fait que là, tu as 2 mois pour te préparer. Parce que ton père et moi, on part en vacances. Hein? J'ai besoin de repos. Amen. Alléluia. Mais, parce que nous, ça va faire 40 ans qu'on est mariés. Mario et Nancy, ça fait 30 ans au mois de juin. C'est ça. Et puis, 20 ans au mois de juin aussi. Wow! Mais 40 ans, ça se fait combien? 5 ans! Y en a-tu d'autres qui ont des chiffres comme ça, là? Alléluia! Oh, merci Seigneur! Gloire à Dieu! Merci Seigneur! Mais vraiment, le respect. Quand on parle de la crainte, quand Dieu dit... Ça fait combien d'années, là? Trop longtemps? 23, oh! À 25, il faut faire de quoi? 57, hey, c'est-tu les plus? 47, bon! Hey, hein? Les gens sont tough, hein? Gloire à Dieu! Oh, merci Seigneur! À part de la préparation. Fait que ça fait proche 50, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais voyez-vous, le respect, la crainte de l'Éternel, c'est le respect. C'est qu'on respecte sa parole. On dit, écoute bien, si Dieu dit de pardonner, il faut que je pardonne. Je respecte la parole de Dieu. J'honore ce qu'il dit, j'honore ce qu'il fait. Amen. Mais voyez-vous, Jésus, il disait, je veux dire, le Père éternel, il parlait, puis il disait, un père, le fils va l'honorer, puis le serviteur, il va craindre son maître. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, ça, c'est là, dans Malachie. Mais aujourd'hui, non seulement Dieu, le monde ne le craigne plus, mais le monde ne craigne même plus l'homme. Ça, j'ai trouvé ça, parce que plus je méditais sur qu'est-ce que Pasteur Donato avait jasé avec nous, plus je remarquais que c'est ça aussi. Parce que des fois, les gens vont arriver puis vont dire, « Je suis capable d'en faire autant. » Non! Cette personne-là, elle a étudié 3 ans à l'université, puis elle a investi de son temps, puis elle a mis de côté bien des choses dans sa vie, puis elle s'est appliquée, et puis ça fait 10 ans qu'elle bâtit sa business, puis tu penses, toi, que parce que tu connais les ordinateurs, capable d'en faire autant? Non! Combien de vous savez qu'il n'y a plus autant d'honneur et de respect, même pour les hommes? C'est vraiment rendu irrespectueux. On va aller dans 2 Timothée 3. Comme j'ai dit, je commence un petit peu négatif. Ça va reprendre du mieux bientôt, là. Découragez-vous pas. 2 Timothée 3. Alléluia. Puis je vais commencer à lire au verset 1. La parole de Dieu dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. » La force, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il renie la présence du Saint-Esprit. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Voyez-vous, on sait que dans les derniers jours, ces choses-là vont s'élever. Quand même, le monde, il dirait, ben tu parles négatif. Écoutez, je parle la parole de Dieu ce matin. C'est dit que dans les derniers jours, c'est comme ça que ça va arriver. Amen. Dans la Bible amplifiée, ça dit, ça va être des gens qui vont être centrés sur eux-mêmes, séraphins, arrogants, ingrats, profanes, lousses dans leur morale et leur conduite. Ils nient et rejettent et restent étrangers à la puissance de Dieu. Dans la Bible, le message, ça dit, absorbés d'eux-mêmes, ils ont faim de l'argent, ils se donnent des promotions eux-mêmes. C'est ça qui arrive. C'est que le gens disent, je suis capable, puis ils ne respectent pas la personne qui a payé le prix pour être dans la position où elle est présentement, orgueilleux, puis ça finit avec allergique à Dieu. Ça, c'est vrai. Il y a des gens que tu penses quasiment qu'ils vont faire des petits boutons quand tu parles du Seigneur. Ils deviennent allergiques à Dieu. Amen. La crainte de Dieu, c'est vraiment la révérence, le respect, l'honneur qu'on donne à Dieu. Une prière qu'on peut réclamer, c'est dans le psaume 86. Vous allez voir, là, ça s'en vient bien. Là. Découragez-vous pas. Psaume 86, verset 11. La parole de Dieu dit, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Vous savez, il n'y a rien de mal à demander de l'aide à Dieu, hein? Il n'y a rien de mal à dire, « Seigneur, Est-ce que je donne vraiment toute la révérence que je devrais donner? Est-ce que j'ai la crainte que je devrais avoir? Parce que des fois, on ne réalise pas, on tombe dans le moule qui, je l'ai réclamé, je vais l'avoir, je prie, mais des fois, on oublie que, oui, ces choses-là, ils nous sont demandées de faire pour obtenir les promesses. Mais dispose mon cœur, Seigneur, à la crainte de l'Éternel, à l'honneur, le respect que je devrais te donner. Amen. On va continuer dans 2 Timothée 3, parce que là, je veux arriver à mon point bientôt. 2 Timothée 3, puis là, je vais continuer au verset 6. Ça dit, « Il en est parmi eux, des gens comme ça, irreligieux, insensibles, qui... Il y en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambres, des beaux noms, hein? De même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes-là. » Je veux qu'on regarde ici qu'il parle de deux hommes, Jannès et Jambres, qui se sont opposés à Moïse. Tantôt, on a lu que c'est des gens qui donnent l'apparence de la piété, mais renient qu'est-ce qui en fait la force. C'est des gens centrés sur eux-mêmes. Alors, c'est qui ça, Jannès et Jambres? Quand on va dans les références, on va à Exode 7. Exode 7. Puis on sait très bien que selon l'ordre que Moïse avait reçu d'aller vers Pharaon pour libérer le peuple, puis Dieu lui avait dit à Moïse, « Prends ton bâton, puis va avec la puissance que je te donne. » Et puis quand Moïse avait jeté son bâton à terre, au verset 10, ça dit, « Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge, devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Jannès puis Jambres y étaient là-dedans. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent aussi des serpents. Mais la verge de Aaron engloutir leur verge à eux. » Amen. Et si je lis aussi, je vais retrouver ma référence, versets 20 à 22. « Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux des serviteurs. » Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve. Il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. » Je veux qu'on comprenne ici où c'est qu'on s'en va là, avec nos Écritures. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, il va y avoir des gens, autrement dit, qui n'auront plus la crainte de l'Éternel, qui n'auront plus le respect qu'on doit donner à l'Éternel. Ils vont être fanfarons, ils vont penser à eux-mêmes, ils vont être allergiques à Dieu, ils vont renier la puissance de Dieu. Et après ça, il donne un exemple. Quand on continue à lire, il dit, « De même que Jannès puis Jambres ont fait la même chose lorsqu'ils s'opposèrent à Moïse. » Et on sait très bien que c'est eux qui faisaient partie de les sages, les magiciens. Comment se sont-ils opposés à Moïse? C'est qu'ils ont prétendu être capables d'en faire autant. Mais non pas avec la puissance de Dieu, avec le respect de Dieu, non pas avec l'honneur qui revient à Dieu. Parce que tout ce que Moïse faisait, c'était pour rendre gloire à Dieu. C'était le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac puis de Jacob qui vous sort aujourd'hui d'Égypte. Il voulait rendre honneur. Mais Jannès puis Jambres, ils faisaient partie des enchanteurs et puis ils arrivaient puis ils démontraient, nous autres aussi, on peut faire de la magie. Mais c'était des choses qui ne persistaient pas et ils n'ont pas été capables de faire le reste non plus. Mais comme la parole de Dieu le dit, le serpent de Moïse a mangé le serpent. Puis quand vous regardez Moïse et puis les 10 commandements, on le voit, ce passage-là. Alors, ce qui veut dire, c'est que la puissance de Dieu va toujours surpasser n'importe quoi que les gens voudraient faire. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, dans les derniers jours? Il dit, sache, autrement dit, que dans les derniers jours, il va y avoir des Jannès puis des Jambres. Des Jannès puis des Jambres, c'est peut-être pas des gens qui arrivent avec de l'ensorcellerie. Mais c'est des gens qui arrivent avec des discours, avec des choses pour essayer de convaincre les autres de ne pas croire à la puissance de Dieu. Eux autres mêmes sont allergiques à Dieu. Eux autres mêmes, ils ne respectent pas, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Voyez-vous, ces hommes-là qui étaient avec Moïse, qui étaient là dans ce temps-là, ne respectaient pas, n'honoraient pas ce que Moïse faisait sous la puissance de Dieu. Puis aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des Jannès puis des Jambres qui s'infiltrent et qui vont attaquer des gens qui connaissent le Seigneur. Eux autres même connaissent le Seigneur. Puis là, ils vont arriver puis ils vont proposer des choses qui ressemblent. « Oh, tu sais, t'es pas obligé d'aller à l'église. T'es pas obligé de payer ta dîme. T'es pas obligé vraiment. » Ils vont proposer autre chose, mais ils renient ce qui fait la puissance de Dieu, qui est honorer Dieu, honorer la parole de Dieu, respecter l'Esprit de Dieu. Ils renient ce qui en fait la puissance. Puis j'en ai connu des Jannès puis des Jambres. Puis j'en connais encore des Jannès puis des Jambres. Je les vois aller, comment ils s'infiltrent avec les jeunes adultes, puis ils essaient de démontrer, ça peut marcher pareil. Regarde, moi, j'ai mon emploi pareil. Ma vie, elle fonctionne pareil, même si je fais du péché. C'est pas grave. Ils veulent démontrer que les choses fonctionnent pareil. Mais il renie ce qui fait vraiment la puissance dans nos vies. C'est la crainte de l'Éternel. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Continuant dans la crainte de l'Éternel, on va démontrer dans la parole de Dieu qu'il y a des gens qui n'auront jamais la crainte de l'Éternel. Puis on va aller à Luc 23. C'est dommage. Moi, à cette heure, quand je vois arriver des gens qui ont l'air de le Seigneur, ils ont déjà un nom écrit dans le front. Jannès puis Jambres. C'est tout. Puis j'embrasserai pas ça. Je participerai pas à ça. Ils viendront pas m'enlever la puissance puis la crainte qu'on doit avoir de Dieu. Dans Luc 23, la parole de Dieu nous dit, Luc 23, au verset 39, quand Jésus a été crucifié, ça dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « T'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, puis sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Et dit, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ici, je vais vous montrer deux personnes, un qui n'a pas la crainte du tout et l'autre qui l'a. Voyez-vous, il y a un des malfaiteurs, il est en train de mourir. Tu sais, des fois, les gens disent, « Ah, oh, je penserai au Seigneur quand je serai proche de mourir. » C'est pas sûr. Tu peux être même à côté. Il est à côté. Puis, il le savait, ce que Jésus-Christ avait fait. Parce qu'il en parle. Un des malfaiteurs l'injuriait, puis disait, « N'es-tu pas le Christ? » Enfin, ça veut dire qu'il connaît ce que le Christ devrait faire. Il dit, « Sauve-toi toi-même en voulant dire, je sais que tu fais des miracles. » Il le sait. Puis il dit, « Et sauve-nous. » Mais l'autre à côté le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu? » Autrement dit, un, il y en a des gens qui ne craindront pas le Seigneur. Ils ne craignent pas. Ils n'ont aucune révérence. Ils n'ont aucun respect. Fuis, ces gens-là. Amen. Il est à côté, il est prêt de mourir. Il va mourir. Il y a le Christ à côté de lui, puis il ne le craint même pas. Il a envie de rire de lui. Pff, c'est exactement ce qu'il fait. Amen. Il n'y a aucune crainte. Amen. Oh, gloire à Dieu. Mais l'autre à côté. Puis moi, ce qui m'impressionne à propos de l'autre, mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Je me suis arrêtée là-dessus quand je me préparais pour tout cela, parce que moi, quand je vais devant Dieu, je dis, « Parle, Seigneur. » C'est bien beau que pasteur Donato ait dit ça, mais « Parle, Seigneur. » Puis je vais dans la parole de Dieu, puis je recherche devant Dieu les choses. On ne prépare pas des sermons en 5 minutes. Ça prend 3-4 jours à préparer un sermon, méditer, lire, plein de choses, faire des recherches. Puis le Seigneur m'a démontré, il dit, « As-tu remarqué que l'autre, c'est un malfaiteur aussi, et que même un malfaiteur peut craindre Dieu? » Puis là, je me suis mis à méditer là-dessus, j'ai dit, « C'est vrai, Seigneur. C'est pour ça qu'on ne devrait jamais juger personne. » On ne devrait jamais juger parce qu'on a deux cas identiques. C'est deux malfaiteurs. Puis moi, j'ai connu des gens qui avaient des difficultés dans leur vie avec un certain domaine, soit la boisson, soit le sexe ou ces choses-là. Mais je le savais dans mon cœur que ces gens-là craignaient Dieu. Tandis qu'il y en a d'autres qui avaient eu les mêmes problèmes, mais je le savais qu'il y avait une attitude, puis il n'y avait aucun respect pour Dieu, puis il n'y avait aucune crainte de Dieu. Un malfaiteur peut craindre Dieu. La plupart du temps même, je parlais une fois avec mon frère Fernand, puis il dit, bien des fois un ivrogne, là, premièrement, un ivrogne va perdre sa volonté quand il prend sa première bière. Là, tu perds ta volonté. Parce que après ça, c'est le goût. Puis il dit, la plupart des ivrognes, avant de prendre la première bière, ils vont dire, Seigneur, j'aimerais donc ça être capable. Ils ont la crainte de Dieu. La plupart ont la crainte de Dieu. Il y a bien des gens qui... Cet homme-là, ce malfaiteur-là, parce qu'il avait la crainte de Dieu, ça l'a sauvé sa vie. Tandis que l'autre malfaiteur qui n'avait pas la crainte de Dieu, puis qui nous sauve, s'il est le Christ, puis qui sauve lui-même, l'autre, il dit, « T'as pas une crainte de Dieu, toi, dans ton cœur? » Il dit, nous autres, on subit la même chose que lui, mais on mérite ce qu'on subit. Une des façons que je vois que des gens ont la crainte de Dieu, même s'ils ont un gros problème dans leur vie, c'est quand les gens disent, « Oh non, 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 moi je ne mérite pas ça. » C'est parce que dans le fin fond, ils sont tourmentés à l'intérieur d'eux, puis ils ont une crainte. « Oh non, non, hey, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire telle chose. » Puis ma sœur Jacinthe, elle a été un an pasteur des ados à Drummondville. Et puis, elle avait quelqu'un qui amenait les petites offrandes le dimanche. Puis la personne, ça y arrivait des fois de sortir le samedi soir puis faire des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Puis le dimanche matin, la personne, elle arrivait et elle disait, « Je ne peux pas amener les offrandes le matin. » Puis ma sœur Jacinthe, elle disait, « Oh, que oui, tu vas les amener. » Parce qu'elle le savait que la raison pourquoi elle ne voulait pas amener les offrandes, c'est qu'elle se condamnait, puis elle craignait Dieu. Elle ne voulait pas se présenter devant Dieu en faisant ça, en faisant les offrandes. Elle craignait, elle avait la crainte de Dieu. Et puis elle disait, « Non, tu vas amener les offrandes, parce qu'elle le savait. » La première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'en aller dans la chambre de bain, puis elle va demander pardon pour ce qu'elle a fait hier au soir, puis elle va mettre sa vie en règle par le temps qu'elle va arriver en avant. C'est exactement ce que la personne faisait. On sait quand les gens ont la crainte de Dieu, de la façon qu'ils vont se comporter, qu'ils vont dire les choses. Voyez-vous, juste ce malfaiteur-là, fait que oui, une personne qui est dans le péché peut quand même avoir la crainte de Dieu. Elle a de la condamnation, mais elle peut avoir la crainte de Dieu. Mais il y en a d'autres qui se promènent ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié ce qui fait la force. Il ne faut pas juger. Amen. On parle de la crainte de Dieu aujourd'hui. Amen. Mais la crainte de Dieu a fait que ce malfaiteur-là il a été sauvé. Amen. Parce que sa crainte... Voyez-vous, mais l'autre, verset 40, le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il reconnaissait que Jésus ne méritait pas ça. Il y avait un respect, une reconnaissance. Il honorait. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même. » Pas au purgatoire, toi, au mois avant. « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Qu'est-ce que la crainte de Dieu peut faire? Amen. Alors, il y en a qui n'auront jamais la crainte de Dieu. Non? Comme cet homme-là, il a beau... à être crucifié, il sait qu'il va mourir, son espérance est où, je ne le sais pas. Il y a le Christ lui-même à côté de lui, puis il n'y a pas la crainte de Dieu. Mais il y en a qui ont la crainte de Dieu. Amen. D'autres vont avoir la crainte de Dieu quand un miracle va se passer. Amen. Merveilleux, parce que c'est ça qu'on va prier ce matin après. Un des exemples, c'est Jésus dans Luc, Pierre, je veux dire, excusez-moi, dans Luc 5, Pierre, au verset 4, ça dit, « Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Il y avait un respect, une crainte. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Il y en a des gens que quand ils vont voir les miracles se passer, puis ils vont voir la grandeur de Dieu, ils vont reconnaître, « Oh Seigneur, oh, hey, qu'est-ce que je suis, moi, pour mériter que tu fasses tant que ça dans ma vie? Oh, wow, Seigneur, ils vont une crainte qui va se développer. » Amen. On sait très bien qu'il y a plusieurs instances, comme dans Luc 17, Dans Luc 17, on va aller au verset 18. Alors, on va commencer au verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas tous été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Et vraiment, ce lépreux-là qui est revenu, ça l'a changé sa vie. Il a tombé dans la crainte de Dieu. Il a dit, « Wow! Hey, c'est quelque chose qui vient de se passer. » Un instant, il est retourné voir Jésus. Il a tombé à ses genoux. Puis il lui a rendu grâce. Jésus dit, « Il n'y a pas 10 qui ont été guéris. Les 9 autres, ils n'ont pas la crainte maintenant de voir qu'en s'en allant, ils sont guéris. Ils vont juste aller selon le rituel. » Il s'est-tu trouvé juste toi pour venir reconnaître Dieu, honorer Dieu, rendre grâce à Dieu? Et puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Mais vraiment, dans la Bible amplifiée, ça dit, ta foi t'a guéri et t'a sauvé. Voyez-vous, les 9 autres ont juste été guéris. La crainte de Dieu va t'emmener à obtenir des choses extraordinaires. Le salut, la guérison. Amen. Gloire à Dieu. On va aller à Matthieu 9. C'est juste pour démontrer comment les miracles, les prodiges amènent les gens dans la crainte. Matthieu 9, je vais lire du verset 6 à 8. C'est lorsque Jésus a guéri le paralytique. Il dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il, au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Voyez-vous, quand Pierre a vu le miracle des poissons, il a tombé, puis il a dit, « Retire-toi. » Il a tombé dans une crainte, dans une révérence devant la puissance de Dieu qui était devant lui. Amen. Lorsque Jésus guérit le paralytique, la foule est tombée dans la crainte, puis ont mis à glorifier Dieu. Les miracles, les prodiges vont emmener les gens dans une crainte et il faut qu'ils viennent à craindre Dieu. Tantôt, je disais, que le monde dans le monde n'ont plus la crainte de Dieu. C'est ce qui se promène. Ils n'ont même plus la crainte de l'homme. Et comme j'ai dit, ça a commencé à rentrer dans l'Église. Il y a des gens, des fois, qui me disent quelque chose, puis je le sais qu'ils me mentent. Puis à l'intérieur de moi, ça dit, tu peux me mentir, mais Dieu voit ce que tu fais. Dieu, il sait ce que tu dis. C'est de valeur, mais c'est ça pareil. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Je sais que la personne n'a pas encore la crainte de Dieu. Mais je sais une chose, c'est que quand les miracles, les signes et les prodiges vont se manifester, en quelque part, les gens vont craindre Dieu. Et il faut qu'ils viennent dans la crainte de Dieu. Dieu a dit lui-même, « Où est l'honneur qui me revient? Où est la crainte que les gens devraient avoir? » Et même, le monde se promène avec des bénédictions à n'en plus finir, puis donne au compte-gouttes. Ah, là, ça me pue au nez, là, je suis tannée de ça. Là. Le monde qui sont... Ah, je ne veux même pas en parler. Il y a des gens que je viens de rayer de ma liste, là, bien raide. Laisse faire le compte-gouttes. Dieu est plus grand que ton compte-gouttes. Ouf. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Puis on voit ce qui se passe dans leur famille aussi. Ah, ça m'écœure. Anyway, gloire à Dieu. les miracles et les prodiges vont emmener le monde dans la crainte. Quand le monde va voir les choses, amen, le monde va craindre. On va aller à Exode 14. Voyez-vous, Dieu, il vient de délivrer tout un peuple. Ils ont sorti avec toutes les bénédictions, tout l'or et l'argent. Ils ont sorti avec tout. Exode 14. Puis je vais lire au verset. J'espère que j'ai le bon, 14. J'avais le verset 21. Bon. Je vais le lire pareil. Peut-être que je vais le retrouver. Ça dit, « Moïse étendit la main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient et souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. » Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuit, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant l'Éternel, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Cette écriture-là, je l'avais, c'est l'autre que je n'ai pas appris. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu, il venait de faire le plus grand miracle. C'était d'ouvrir la mer, de faire passer. Puis après ça, il avait même refermé la mer. Le grand miracle, amen, il avait, leurs ennemis étaient de fait devant eux. Mais j'avais une autre écriture qui disait que Dieu disait, quand est-ce que les gens, les Israélites, vont-ils continuer à me craindre et à me respecter? Parce que s'ils me craignaient et me respecteraient, ils auraient les choses que je leur ai promis. Amen. La semaine prochaine, je vous donnerai l'écriture. J'ai oublié d'aller l'écrire ici. Mais vraiment, Dieu dit, où est la crainte? Quand est-ce que ces gens-là vont-ils me craindre? Parce que vous savez comment étaient les Israélites après avoir passé, après avoir vu le plus grand miracle. Ils s'en allaient dans le désert, puis aussitôt qu'il y avait une petite chose, ils se mettaient à chialer et à murmurer. Puis le Seigneur, il me faisait réfléchir là-dessus, puis le Seigneur disait, est-ce que les gens qui chialent puis qui murmurent commencent juste ça une journée? 31, tu penses? Dans Exode? Alléluia. On va aller voir. T'avais-tu le verset, ta caillette? Hein? Ah, 14, 31 dans Exode. OK. 14, 31. J'y arrive-tu? Je suis dans Genèse. Attends un petit peu, j'arrive, là. 14... 31. Ah oui, c'est ça. Israël vit la main puissante de l'Éternel, que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Là, parce qu'il a vu le miracle, ça dit que le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Mais je vais avoir mon autre écriture qui dit que Dieu leur dit, mais est-ce que le peuple peut continuer aussi à me craindre? Tu dis que c'est 15. Hey, le monde connaît la parole ici, hein? Gloire à Dieu. C'est 15. OK. Non. 14, 15. Oui, c'est bon. Mais c'est pas celui-là. Mais je vais le trouver. Cherchez plus. Je dois l'avoir écrit quelque part, puis là, c'est comme s'il a disparu de ma page. Gloire à Dieu. Mais Dieu dit, là, ils ont cru parce qu'ils ont vu le miracle. Ils ont craint l'Éternel, je veux dire, parce qu'ils ont vu le miracle. Mais plus loin, ça dit, en quelque part, dans la Bible, ça dit, « Si ce peuple me craindrait, voici ce qu'il arriverait. » Puis là, ils parlent comment ils habiteraient des belles maisons, comment ils feraient des bonnes choses, comment ils réussiraient. Ça veut dire qu'ils ont cru parce qu'ils ont vu le miracle là. Mais le Seigneur, il mettait l'emphase sur le chiolage. Puis Dieu disait, ils n'ont pas commencé à chioler dans le désert. Ça, le chiolage, il faut régler ça le plus vite possible dans notre vie. Parce qu'ils n'ont pas commencé à chioler dans le désert avec les miracles que Dieu faisait. C'est parce que pendant 400 ans, ils ont passé leur temps à chioler. Puis parce qu'ils étaient des chioleux, quand ils sont arrivés dans le désert, aussitôt qu'une petite chose s'élevait, puis que là, il y avait un manque en quelque part, bien, en quelque part, ils se mettaient à chioler, on le sait très bien. Puis là, ils disaient, oui, mais on aurait dû retourner en Égypte, la, 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 la. Ça, c'est parce qu'ils n'ont jamais réglé, avant de sortir de l'Égypte, le problème de chiolage qu'il y avait. Amen. Sinon, la crainte de l'Éternel aurait demeuré sur eux, parce que les miracles vont toujours amener une crainte. Comme Sylvie avait le verset 31, ça dit que parce qu'ils ont vu le peuple d'Israël craignir l'Éternel. Mais qu'est-ce que je veux arriver à dire ce matin, c'est que ça prend les miracles et les prodiges pour que le monde vienne à la place de craindre l'Éternel. Et c'est une chose qu'on prie énormément ici, puis qu'on croit dans notre cœur, qu'on est dans le flot de l'onction des derniers jours qui va amener une manifestation de la puissance de Dieu, que le monde va craindre l'Éternel. La chose, il faut absolument que je finisse mon dire, amen. La troisième chose qui va amener les gens, des fois, à craindre l'Éternel, mais ça ne marche pas, c'est les catastrophes. Tout le monde sait ce qui est arrivé le 11 septembre, le 9 du 11e mois, 9-1-1, amen. Ce n'était pas le bon 9-1-1, amen. Tout le monde sait ce qui est arrivé le 11 septembre. Et puis, comment les avions se sont tombés dans les tours. Ah là, les églises se sont remplies à cause de la catastrophe. Mais ça ne dure pas. Parce que là, aussitôt que c'est passé, le temps arrange les choses. Vous savez très bien que des fois, on dit ça aux gens. Supposons qu'ils perdent quelqu'un de cher dans leur famille. Ils vont dire, le temps, avec le temps, ça va s'apaiser. Avec le temps, tu vas voir la douleur va être moins grande. Eh bien, c'est la même chose avec les catastrophes. Puis, on ne peut pas prier parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent, « Seigneur, s'il faut qu'ils descendent dans le fond du baril pour voir clair, envoie deux, trois catastrophes, ça va peut-être les réveiller, ça va peut-être mettre une crainte en eux parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la crainte. » On ne peut pas prier ça, parce que les apôtres avaient même demandé à Jésus, « Tu veux-tu qu'on invoque pour que le feu descende puis vienne les consumer? » Jésus dit, « Savez-vous de quel esprit vous êtes animés? » Alors, les catastrophes vont peut-être saisir les gens, mais ce n'est pas la bonne crainte, c'est la peur qui s'installe, et non pas la crainte de Dieu. Amen. Ils ont peur, alors là, ils se garochent pour de l'aide. Amen. Il y a juste une chose qu'on peut prier quand la crainte n'est plus dans le monde et la crainte de Dieu, le monde ne commence ne plus à l'avoir dans l'Église aussi. Parce que ça me fend le cœur quand je vois des gens s'éloigner puis retomber dans des choses après avoir connu Dieu, après avoir marché avec Dieu. Puis je me disais toujours, mais comment ça se fait? Je l'ai parlé l'autre semaine. Je disais, Seigneur, c'est-tu parce que je devrais prêcher autrement? Ça devrait-tu être un autre qui prêche à ma place? Peut-être je prie pas assez. Puis quand je parlais avec Pasteur Donato, il dit non, c'est la crainte de Dieu que les gens n'ont plus. Il dit non, non. Puis il dit malheureusement, c'est rentré dans le corps de Christ. C'est rentré dans l'Église. Le monde, n'importe quelle excuse, bof, bof. Il délaisse, mais il ne se rend pas compte que c'est la crainte de Dieu qui va amener les bénédictions. Savez-vous quoi? On va parler de ça la semaine prochaine. Amen. Parce que là, il est midi moins 20, puis là, votre routine va brûler. Amen. La crainte de Dieu. Et ça va prendre les miracles. Alors, parce que la parole de Dieu le dit, c'est par les bontés de Dieu que l'homme vient à la repentance. Plus le monde va voir comment Dieu est bon, tu ne peux pas résister devant l'amour. Plus tu vois comment Dieu est grand, plus tu vois les choses qu'il fait. Puis vraiment, on peut même, comme Pasteur Réal il disait ce matin, on ne peut même pas arriver puis dire, Pasteur Réal et moi, que c'est juste notre foi qui a fait qu'on est rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui. Non, c'est l'application de la parole, c'est l'honneur qu'on a donné à la dîme de mettre Dieu en premier dans notre vie, de l'honorer avec nos biens, la crainte qu'on avait de lui qui a fait que dans toutes les autres avenues, même si notre foi n'était pas toujours à la hauteur de ce qu'on demandait, Dieu venait nous rejoindre. Amen. Gloire à Dieu. Mais il y a des grands bénéfices de marcher dans la crainte de l'Éternel. Il y a des grands bénéfices, puis on va regarder ça la semaine prochaine. Amen. On va se lever debout. Pasteur Réal, il m'a demandé de faire la prière pour le salut. Amen. Alléluia. Marcher dans la crainte de l'Éternel, c'est vraiment marcher dans la puissance de Dieu, vous savez. Crainte de l'Éternel, c'est vraiment de reconnaître comment il est grand, il est toujours là, il ne nous abandonne jamais. Ils vont même au-devant de nous. Dieu passait son temps à parler dans l'Ancien Testament puis à dire, exemple comme à Moïse, « Va, puis mon ange ira au-devant de toi. » Quand les trois enfants hébreux ont tombé dans la fournaise, mais ils croyaient en Dieu, peu importe, Jésus était là. Merci Seigneur qui est avec nous. Avant, pendant, tout le temps, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir des fils et des filles. Il avait un fils unique, puis il ne voulait pas rester juste avec un fils unique. Il voulait devenir un père pour nous, puis il voulait qu'on devienne des enfants pour lui. Mais pour ça, il y avait un prix à payer, puis Jésus l'a payé. La parole de Dieu nous dit que Jésus y est venu. Puis il a dit, non pas moi, ma volonté, mais ta volonté, Père. Tu veux que j'aie des frères et des sœurs. Tu veux sauver le monde. Alors il dit, je vais faire ce qu'il faut. Jésus lui-même est allé à la croix. Il a dit, je donne ma vie. Personne ne me la prend de force. Je la donne. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Personne n'est comme lui. La parole de Dieu dit qu'on ne peut être sauvé sous aucun autre nom que le nom de Jésus. Amen. Mais la parole de Dieu dit de le confesser, de le croire. Alors, si vous croyez vraiment que Dieu vous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils, on va le confesser ce matin. Père éternel, on croit dans notre cœur que ta parole est vraie, que j'avais besoin d'être sauvé, d'être lavé de mes péchés, d'être amené à la vie. Et tu as fait pour moi le chemin en Jésus. Seigneur Jésus, toi qui es le sauveur de ma vie, toi qui as tout accompli, j'accepte, j'honore, je révère ce que tu as fait. Jésus, sois le sauveur de ma vie. Viens m'aider. Montre-moi toutes les choses que je dois voir. Viens au secours de mes faiblesses. Et surtout, Amène-moi à être tout ce que je dois être. Merci, Seigneur. Si vous avez fait cette prière-là pour la première fois ce matin, il y a un couple ici qui va avancer en avant, qui va vouloir vous donner, vous pouvez venir, va vouloir vous donner une Bible, va vouloir vous donner de la littérature. S'il y en a qui ont fait la prière par les autres semaines, puis vous n'avez pas eu de Bible, venez en avant. Ça va nous faire plaisir. On aime à investir la parole pour vous. Alors, bon dimanche à tous. Amen.